Aujourd'hui, donc, nous avons confié la conférence à Thibaut Damour, qui va nous parler de la relativité générale. Alors, je le présente. Il est né en 1951. Il est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de physique, docteur d'État en physique. Son parcours, il a été directeur de recherche, il a été, pardon, d'abord laboratoire de physique théorique, Institut Poincaré à Paris, puis à l'université de Princeton, et depuis 85 jusqu'à 92, directeur de recherche au CNRS. Depuis 89, il est professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques, qui est une fondation à statut privé, entièrement consacrée à la recherche fondamentale en mathématiques et en physique. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Institut de France, donc, membre du conseil scientifique de l'École normale supérieure et du comité des programmes scientifiques du Centre national d'études spatiales. Il a publié de nombreux articles scientifiques spécialisés. Je lui laisse la parole pour 50 minutes et ensuite vos questions. Thibaut Damour, merci. À vous.
Bien, donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de la relativité générale, qui est une des grandes révolutions conceptuelles du XXe siècle, mais qui est finalement pas vraiment comprise du grand public. En insistant sur quel est le statut aujourd'hui, l'importance et les confirmations de la théorie d'Einstein aujourd'hui, et en finissant sur la vision qu'on peut avoir de l'avenir de cette théorie dans l'ensemble de la physique. Alors d'abord, il y a un siècle, à la fin du 19e siècle, comment concevait-on la réalité ? La réalité était pensée sous l'augure de quatre catégories séparées, qui sont en fait les catégories que tout le monde apprend à l'école et que tout le monde a à l'esprit aujourd'hui. Donc j'espère que dans un siècle, les choses auront changé, puisque le but de cette conférence est de montrer que tout ça a changé, mais pas encore dans les esprits. Alors qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on apprenait au 19e siècle et qu'est-ce qu'on apprend encore à l'école, je crois, de ces temps-ci ? C'est qu'il y a des catégories séparées, d'abord des cadres d'existence de la réalité, qui sont l'espace et le temps. L'espace a trois dimensions, et on apprend à l'école qu'il est quelque chose de donné a priori, que la géométrie euclidienne est quelque chose de fixé une fois pour toutes, et que dans l'espace, il y a la notion de soit un corps est au repos, soit il est en mouvement. Ensuite, il y a la question du temps, qui est quelque chose à part de l'espace, qui n'a qu'une dimension, qui est aussi donné a priori, indépendant de la réalité matérielle, et qui a cette structure bizarre où seul le présent est censé exister, le temps psychologique, le passé n'existant plus et le futur n'existant pas encore. Cette notion de flux temporel qui est souvent très prenante pour l'esprit. Donc ça, c'est les cadres d'existence de la réalité. Et qu'est-ce qui constitue l'étoffe de la réalité, comme on dit en anglais, ou le contenu matériel? Eh bien, il y a deux catégories essentielles, c'est force et matière. Donc là, la matière, on savait déjà au XIXe siècle, par exemple, la table périodique de Mendeleïev, tous les éléments chimiques. On avait trouvé même l'électron, la première particule élémentaire découverte en 1897. Donc la matière était conçue sous forme de particules ayant des masses et une existence permanente et interagissant les unes avec les autres avec des forces, comme la force gravitationnelle et la force électromagnétique qui sont connues depuis longtemps. La force étant quelque chose de complètement séparé de la matière. Donc ça, c'était la vision à la fin du XIXe siècle. Cette vision a complètement changé au XXe siècle et Einstein, cet homme, Albert Einstein, est responsable pour avoir bouleversé très profondément ces catégories. Et je vais indiquer en quel sens. Essentiellement, on peut dire que ces quatre catégories ont été unifiées, qu'elles ont cessé d'exister comme catégories séparées, et je vais décrire rapidement comment. D'abord, je vais décrire très rapidement que les notions d'espace et de temps ont été unifiées en 1905 par Einstein dans la théorie de l'espace-temps de la relativité restreinte. Puis, la même année d'ailleurs, il a unifié force et matière par cette célèbre équation E égale mc2, puisque E égale mc2 veut dire que l'énergie est égale à la masse fois une constante, qui est le carré de la vitesse de la lumière. Or, la masse, c'est ce qui caractérise l'existence de la matière, et l'énergie, c'est ce qui caractérise les forces d'interaction, en fait. Une interaction, c'est quelque chose qui a une énergie potentielle qui est due à l'existence de matière. Donc, cette équation, innocente, que tout le monde récite comme un mantra, mais qui a en fait un sens physique très profond, est déjà une unification profonde entre deux catégories séparées. Mais un niveau d'unification supérieur a été atteint 10 ans plus tard, en 1915. C'est justement ce que je vais exposer aujourd'hui, la notion d'espace-temps courbe de la relativité générale, qui, en fait, mêle ensemble l'espace-temps, qui avait déjà unifié ces deux catégories, et cette équation E égale mc2, unifiée toutes les énergies et la masse et la matière en un seul bloc, et tout ça va se mettre ensemble avec l'espace-temps plat pour déformer l'espace-temps plat et définir l'espace-temps courbe. Einstein a aussi beaucoup contribué à l'autre grande révolution conceptuelle du XXe siècle, qui est la mécanique quantique, à beaucoup de niveaux, mais en particulier par la notion de photon en 1905 et d'autres choses. Et aujourd'hui, très rapidement, on peut dire que l'héritage d'Einstein est très important à la fois pour la description de l'univers macroscopique, c'est surtout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle de la galaxie, mais de tout l'ensemble de l'univers en expansion, du Big Bang, la notion de trou noir, et je vais parler des ondes gravitationnelles, etc. Donc toute la description de l'univers macroscopique est fondée aujourd'hui complètement sur la théorie d'Einstein de l'espace-temps courbe, et plus du tout sous les vieilles catégories. Mais surtout, la définition aujourd'hui de ce que c'est qu'une particule, de ce que sont les objets du monde microscopique, est complètement fondée sur l'espace-temps plat d'Einstein, en fait, et non pas l'espace-temps courbe, d'ailleurs, ce qui pose un problème sur lequel je reviendrai à la fin. Donc la théorie d'Einstein, les idées d'Einstein ont pénétré aussi très profondément la définition même de la matière, et je voulais juste citer en passant que si chaque jour vous mettez un CD, un compact disque, vous devriez penser que le concept de laser a été inventé par Einstein en 1917, dans une intervention fondamentale qui a clarifié quelque chose d'important en théorie quantique, et que aujourd'hui, quand les avions atterrissent et quand certains objets militaires, enfin disons, toutes les armées du monde se repèrent à la surface du globe par un système de positionnement qui sert aussi aux armes. Et aujourd'hui, certaines voitures haut de gamme aussi peuvent se repérer dans des villes inconnues par un système de positionnement qui s'appelle GPS, Global Positioning System. Et ce système GPS marche grâce au fait qu'on tient compte dans ce système que le temps est courbe. La notion qui, pendant des années, du temps courbe d'Einstein, le fait que le temps n'est pas le même à la surface de la Terre ou en hauteur, qui est en effet très petit, de l'ordre du milliardième, pendant très longtemps, les gens disaient que ça n'avait aucune importance pratique, mais aujourd'hui, ça a une importance pratique dans la vie de tous les jours. Donc, ça montre que, parfois, des concepts ésotériques, 50 ans plus tard, deviennent très importants. Bien, donc, je ne vais pas rappeler en détail, mais juste, je mets quelques transparents pour vous rappeler la structure de l'espace qu'on apprend à l'école, l'espace d'Euclide, est fondée sur ces théorèmes qui sont censés être toujours vrais, par exemple que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, et aussi le théorème de Pythagore qui dit que le carré de la distance entre deux points peut finalement être décomposé comme la somme des carrés des projections des coordonnées sur trois axes orthogonaux, et que la notion d'espace d'Euclide a un caractère assez fantomatique, en ce sens que c'est un espace qui est données a priori dans lesquelles les objets s'inscrivent. On peut décrire la position des objets dans cet espace, mais cet espace est donné avant l'existence des objets, donc comme une réalité idéale, au sens de Kant, qui est indépendante de la matière. Et c'est ça qui changera avec Einstein. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ? L'espace-temps, en fait, si vous vous souvenez avoir résolu à l'école des problèmes de train, avec un train qui part d'une gare à telle heure, à telle vitesse, et un autre, la question étant de savoir quand et où est-ce que les deux trains se rencontrent, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de faire des diagrammes de train, c'est-à-dire de représenter ici ce train-là dans un diagramme où l'axe vertical est le temps, l'axe horizontal est l'espace. Quand il est au repos, il fait ça. Et puis quand il se déplace sur cette voie-là, à la fois il se déplace dans l'espace et le temps continue à avancer, donc il trace une courbe avec une certaine pente comme ça, et l'autre train a une courbe avec une autre pente. Et donc là, c'est un diagramme où vous avez combiné une dimension d'espace et une dimension de temps, et un objet ponctuel qui se déplace dans l'espace devient une ligne, et l'intersection de deux lignes, c'est un événement qui est la rencontre des deux trains. Bien. Ça, c'est en fait l'espace-temps. Si vous faites simplement une chose, l'espace-temps, c'est quand vous faites ça, mais que vous oubliez les axes de temps et d'espace, puisque l'espace-temps d'Einstein, Minkowski et Poincaré, c'est la vision où il n'existe pas temps et espace séparés. Vous avez un combiné du temps et de l'espace, mais vous ne savez jamais qu'est-ce que vous avez appelé direction temps et direction d'espace. Mais ce qui reste, c'est justement ce que j'ai expliqué, ces diagrammes de train. Ça, c'est une particule qui, ici, reste au repos par rapport à quelqu'un, puis se met à bouger, puis redevient au repos, etc. C'est le même diagramme qu'avant. Vous pouvez représenter aussi, dans l'espace-temps, le temps étant vertical et l'espace ayant maintenant plusieurs dimensions horizontalement, la collision de deux particules, et lors de cette collision, l'émission d'une bulle de lumière qui part dans toutes les directions et qui part comme ça. Voilà, ça c'est un diagramme d'espace-temps, et donc la réalité est censée être décrite dans la théorie d'Einstein de 1905 uniquement dans l'espace-temps. Alors il y a un point important, c'est que déjà ça veut dire quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas de temps. Le flux temporel, la notion qui a un passé, un présent, un futur, et qui a la notion de maintenant, tout ça n'existe pas en physique, ça n'a d'ailleurs jamais existé bien avant Einstein, mais surtout après Einstein, il n'y a plus possibilité de parler même du flux temporel, c'est quelque chose qui n'existe pas en physique. Mais en revanche, aussi, la géométrie de l'espace-temps, Einstein, et après Poincaré et Minkowski, a introduit une généralisation du théorème de Pythagore dans l'espace-temps. Vous avez un théorème de Pythagore, vous avez toujours la somme des carrés, mais il y a un carré supplémentaire lié à une dimension du genre temps et qui vient avec un signe moins, pour une raison très profonde, mais d'ailleurs qu'on n'a toujours pas comprise. Mais enfin, en tout cas, c'est ça, c'est un fait. Il y a un théorème de Pythagore dans l'espace-temps avec ce signe moins pour le temps. Mais il reste ce fait que l'espace-temps de la relativité restreinte reste toujours un objet fantomatique qui est donné a priori, indépendamment de la matière dont il sert à décrire l'évolution. Vous avez ce caractère absolu de cette chronogéométrie. Géométrie veut dire mesure de la Terre, donc mesure des distances. Chronométrie veut dire mesure du temps, donc chronogéométrie, ça veut dire mesure de l'espace-temps, d'Euclide Einstein. De même que, par exemple, dans l'espace habituel, si vous avez un triangle quelque part dans l'espace, vous pouvez le déplacer à gauche, à droite, le tourner. Il reste toujours le même triangle avec les mêmes angles, les mêmes longueurs. Il y a un groupe de déplacements qui veut dire qu'un point est le même, ce point-là est le même que celui-là. De même, l'espace-temps aussi a un groupe de déplacements, ce qui veut dire que c'est une structure où il n'y a aucun point privilégié. Et c'est ça qui a changé dans la théorie d'Einstein. Einstein a eu l'intuition qu'en physique, si quelque chose peut influencer quelque chose d'autre, alors ce quelque chose d'autre doit pouvoir en retour influencer la première chose. L'espace et l'espace-temps, c'est quelque chose qui influence la matière, puisque par exemple, une particule qui se déplace soumise à aucune force dans l'espace-temps, elle va tout droit à vitesse constante, ce qui veut dire qu'elle trace une droite dans l'espace-temps. Mais une droite, ce n'est pas n'importe quoi, elle n'a pas un mouvement absolument arbitraire. Donc son mouvement est déterminé par la structure de l'espace-temps. C'est parce que l'espace-temps admet des droites, parce que l'espace-temps est quelque chose de plat qui admet des droites qui vont tout droit, que les particules de matière, finalement, suivent quelque chose qui est imposé par l'espace-temps. Donc l'espace-temps cause quelque chose sur la matière. Et donc Einstein a eu l'idée qu'en sens inverse, il faudrait, par symétrie en physique, que la matière cause aussi quelque chose sur l'espace-temps. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, Einstein a trouvé qu'il y a une structure nouvelle qui est une déformation de l'espace-temps, qu'on appelle l'espace-temps courbé. Vous avez peut-être entendu il y a quelques jours une conférence de Jean-Pierre Bourguignon là-dessus, mais en tout cas, je vais expliquer ce que c'est que la courbure d'un espace-temps. C'est un concept qui a été introduit par Riemann en 1854, qui peut se comprendre facilement. Ça consiste simplement à dire que les théorèmes de la géométrie euclidienne sont faux. Parce que, par exemple, si vous avez un triangle, on vous apprend que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Mais pourquoi on vous apprend ça? Après tout, si vous avez un vrai triangle et que vous mesurez la somme des angles, vous allez soit trouver 180 degrés, soit trouver autre chose, et il n'y a pas de raison a priori pourquoi vous devriez trouver 180 degrés. Peut-être que l'univers est tel que ça n'est pas égal à 180 degrés. Donc est-ce que c'est un fait expérimental que la somme des angles vaut 180 degrés? En fait, c'est un fait expérimental que la somme des angles d'un triangle ne vaut pas 180 degrés. Mais on a mis très longtemps à s'en apercevoir parce que la déviation par rapport à 180 degrés est très très petite dans la région de l'espace-temps où l'on est. Et en tout cas, bon, ce mathématicien Riemann avait conçu une géométrie où il y avait des lignes droites, des triangles, mais où la somme des angles d'un triangle valait n'importe quoi. Et du coup, il définissait la courbure de l'espace comme étant la différence de la somme des angles moins 180 degrés divisée par la surface. Ça, c'est une quantité qui a les dimensions de l'inverse d'une surface qui mesure la courbure moyenne à l'intérieur d'un triangle. Donc, il n'y a pas à se torturer le cerveau pour savoir ce que c'est qu'un espace-temps courbe. Il ne faut surtout pas utiliser l'image que l'on voit toujours en vulgarisation, que vous prenez une feuille plate ou une feuille de caoutchouc, puis vous commencez à la courber, parce que là, tout le monde se pose la question, mais alors, il y a l'espace autour, etc. Non, à l'intérieur de l'espace, vous faites un triangle, vous mesurez les angles, et si ça ne vaut pas 180 degrés, c'est un espace courbe. Alors, Einstein a trouvé que ça pouvait généraliser à l'espace-temps. Il faut définir la notion d'angle, mais on peut le faire dans l'espace-temps. Et il y a l'analogue du théorème habituel. Et donc, la courbure de l'espace-temps est définie par la même formule qu'avant. Et maintenant, la théorie d'Einstein est définie par cette équation-là. Et cette équation-là, c'est en fait vraiment la théorie d'Einstein. Elle contient toute la théorie d'Einstein, à part le fait que j'ai supprimé un coefficient 8π pour vous simplifier. Elle dit que la courbure moyenne spatiale, définie en ce sens-là, est proportionnelle avec la constante de gravitation de Newton et la quatrième puissance de la vitesse de la lumière à la densité d'énergie dans le volume, c'est-à-dire l'énergie divisée par le volume, ou par l'équation E égale mc2, si vous avez une densité d'énergie, c'est comme une densité de masse, donc la masse par unité de volume, donc la densité de matière. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes dans une région de l'espace où il n'y a pas du tout de matière, où la matière est très loin, et que la somme des angles d'un triangle vaudra 180 degrés, mais si vous amenez de la matière au centre de l'espace, par exemple, vous-même, ici, toute votre présence courbe l'espace autour de cette salle et fait que la somme des angles n'est plus exactement égale à 180 degrés. Mais à cause de ces coefficients numériques et de la faible densité, 1 gramme par centimètre cube, en gros, de vos corps, finalement, la déviation est de l'ordre du milliardième, mais elle est mesurée. Elle a été mesurée, pas évidemment aujourd'hui, mais dans d'autres conditions. Donc, le point essentiel, c'est que cette notion, c'est pas tellement la notion de courbure d'espace-temps que j'aimerais que vous gardiez de cette conférence, mais c'est plutôt que l'espace-temps est devenu quelque chose de mou, un objet dynamique, ce qu'on appelle en physique un champ, qui est créé par la densité de masse-énergie, quelque chose qui est influencé par quelque chose d'autre, qui peut se déformer. Et donc là, on a ce que j'anticipais tout à l'heure en disant, on a l'union de l'espace et du temps qui sont devenus espace-temps, de la matière et de la force qui ont été unifiées sous la forme E égale mc2, et maintenant, ce E égale mc2 sert de source dans l'équation d'Einstein à la courbure de l'espace-temps. Donc, on a cette unification de catégories. Pourquoi est-ce que cette courbure de l'espace-temps, Einstein a aussi trouvé que c'était la gravitation? On peut le comprendre sur un petit diagramme de ce type-là. Si j'étais dans un espace-temps plat, là, ce diagramme ici représenterait par exemple deux trains qui sont partis de la même gare, mais un plus tard que l'autre, dans la même direction avec la même vitesse. Eh bien, si vous êtes dans un espace-temps plat, vous partez dans la même direction à la même vitesse, vous aurez toujours la même distance entre vous deux qui restera constante. Tandis que dans l'espace-temps courbe, si vous partez de deux points voisins dans la même direction et avec la même vitesse, en fait, vos trajectoires dans l'espace-temps vont diverger. Parce que c'est la courbure de l'espace-temps qui est ici, bon, symbolisée par ce que j'ai dit qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire un diagramme. On peut essayer de faire un diagramme plus compliqué, mais en tout cas, ça exprime l'idée qu'il y a des lignes toutes droites, parce que dans l'espace courbe, vous pouvez aller tout droit, le plus droit possible, mais deux lignes toutes droites ne sont pas droites l'une par rapport à l'autre, elles dévient. Et cette déviation veut dire que deux objets qui tombent en chute libre dans le champ gravitationnel vont avoir une accélération relative, et ça exprime la gravitation. Enfin, on démontre mathématiquement que ça a toutes les propriétés de la gravitation. Bien. Donc, le point essentiel, c'est que la théorie d'Einstein nous dit que l'espace-temps est devenu un objet dynamique. Alors, pour donner un peu de sens à ça, je vais décrire quelques exemples paradigmatiques du caractère dynamique de l'espace-temps. La première chose, c'est que si l'espace-temps est quelque chose de dynamique, un objet mou, un objet déformable, eh bien, il doit y avoir des ondes de déformation de l'espace-temps. C'est-à-dire, si je fais bouger l'espace-temps quelque part, eh bien, cette déformation de l'espace-temps va pouvoir se propager, donc onde de déformation de la géométrie, de la chronogéométrie de l'espace-temps, et c'est ce qu'on appelle onde gravitationnelle. Autre chose, je vais décrire l'univers en expansion, qui est aussi quelque chose d'assez remarquable, où de l'espace naît de rien. Au cours de l'écoulement du temps, il y a de plus en plus d'espace qui donne le caractère dynamique de l'espace, et je crois que je n'aurai pas le temps de décrire le trou noir, mais il y aura d'autres conférences là-dessus. Donc, onde gravitationnelle, ça veut dire que quelque part, dans l'espace, vous avez par exemple de la masse, des masses qui bougent, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et ça, ça introduit une déformation de l'espace-temps qui se propage. Ça, c'est un diagramme d'espace-temps, pour vous habituer à voir des diagrammes d'espace-temps. Donc le temps est vertical, l'espace est vertical. Ça, ça veut dire que les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre pendant que le temps s'écoule, et la déformation de l'espace-temps se propage et arrive jusqu'à nous, à des centaines de millions d'années-lumière plus loin, et cette déformation est mesurable ici, sous forme de quoi ? Parce qu'une déformation de l'espace-temps, ça veut dire que la géométrie est déformée, donc ça veut dire qu'ici, si vous mesurez des distances ou vous mesurez la somme des angles d'un triangle, en fait, ce n'est pas une bonne façon de mesurer la somme des angles d'un triangle, on mesure des distances très précisément, eh bien, dire que la géométrie fluctue, c'est-à-dire que vous prenez un triangle sur lequel personne ne bouge, et tout d'un coup, vous voyez que ses dimensions bougent. Ce qui veut dire que la géométrie a bougé sans que personne l'ait touché. Donc c'est des ondes de déformation de la géométrie. Voilà une représentation intuitive par les diagrammes que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire de ce que, mais de temps en temps on est bien obligé, pour donner une idée de ça. Disons en passant que ces temps-ci, dans cette année qui est en train de s'écouler, les États-Unis d'un côté et la France et l'Italie sont en train de construire de gigantesques détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire ces ondes de déformation de l'espace-temps, qui sont des grands tubes à vide dans lesquels la lumière circule. Je n'ai pas le temps de décrire ça. Ça, c'est l'expérience franco-italienne qui est en construction actuellement en Italie, à Pise. Et ces grands détecteurs, d'ici un an, devraient voir pour la première fois directement ces ondes de déformation de l'espace-temps arriver sur nous, ces ondes gravitationnelles. Ce qui sera très important pour l'avenir de l'astrophysique, parce qu'on pense que ça apportera une révolution très importante dans notre compréhension de l'univers. J'aimerais décrire maintenant la notion d'espace en expansion, d'univers en expansion. Alors d'abord, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais localement dans l'espace-temps, on peut toujours définir la notion de repos relatif, de savoir si deux objets bougent l'un par rapport à l'autre. C'est comme si vous êtes dans la circulation juste à côté d'une voiture, vous pouvez, en regardant la distance à tout moment de la partie arrière de la voiture devant vous et de la vôtre, ou par effet Doppler, vous pouvez savoir si les deux voitures vont à la même vitesse ou pas. Donc il y a la notion de repos relatif, comme ça, de deux corps l'un à côté de l'autre. Eh bien, la notion d'univers en expansion, c'est une notion très bizarre, où c'est quelque chose qui existe dans la théorie d'Einstein sous certaines conditions, s'il y a une certaine densité de matière dans l'univers. Vous avez un ensemble infini d'observateurs. Chaque observateur, là, est dans sa petite voiture et regarde les autres autour de lui et voit que personne ne bouge. Il regarde ses voisins immédiats. Il est pris dans un grand embouteillage cosmique, si vous voulez, et personne ne bouge. N'importe où dans l'espace, tout le monde regarde ses voisins et personne ne bouge. Eh bien, une heure plus tard ou un milliard d'années plus tard, vous vous apercevez que tout le monde, en fait, est plus loin de vous. Mais à tout moment, personne n'a bougé. Il est vrai, par exemple, la voiture qui est là, maintenant, comme elle est plus loin, vous la voyez peut-être bouger un peu, mais s'il y avait un nombre infini de voitures, la voiture qui reste encore toujours juste à côté de vous, elle ne bouge toujours pas. Donc, vous avez là quelque chose qui nous rappelle ce que Wagner avait pressenti dans Parsifal, puisque, par exemple, à un moment, Gournemans explique à Parsifal qu'il s'étonne en marchant de voir qu'il marche à peine et le paysage se déroule à grande vitesse. Et Gournemans lui dit, tu vois ici, mon fils, le temps engendre l'espace. C'est ce qui se passe en théorie d'Einstein. Personne ne bouge, mais l'écoulement du temps, qui n'existe pas comme j'ai dit, mais ça sera une autre catégorie, engendre l'espace. Alors, je montre juste un diagramme, une version artistique de ce qu'est l'espace-temps cosmologique aujourd'hui. Ça, c'est une description de l'univers cosmologique. Depuis un univers primordial, qui avait sans doute une taille, ou tout au moins une courbure, liée à une dimension de l'ordre de 10⁻³ cm, quelque chose d'inimaginable dans la vie de tous les jours, tellement c'est petit, qui est entré, pour une raison qui n'est pas comprise très profondément, mais il y a des mécanismes qui expliquent pourquoi, un univers d'une taille infinitésimale peut enfler par ce phénomène d'expansion, mais il faut une cause à cette expansion, dont on n'est pas sûr, mais en tout cas, il y a des mécanismes qui permettent d'enfler cet univers de taille infinitésimale dans un univers aussi grand que le nôtre. À un certain moment, cet enflement a créé un très grand dégagement de chaleur, et après ça, c'est ce qu'on appelle le Big Bang normal, l'univers primordial chaud inventé par Gamow, qui pendant très longtemps était opaque, et puis après, il est devenu transparent, et puis la matière s'est condensée ici, ce qui est représenté, toujours en gardant cette expansion qui a été créé dans ce mouvement initial. Donc ici, les galaxies sont formées. Et puis ici, nous sommes quelque part dans l'espace-temps. Et quand je dis que le temps n'existe pas, ça veut dire que, vous voyez, dans ce diagramme-là, il n'y a aucun point privilégié. Il n'y a pas une coupe, une section privilégiée qui vous dit « le maintenant est là ». Non, le maintenant n'est pas là. Le maintenant, c'est vous qui le définissez. Donc, disons « nous ». Voilà. Et quand vous regardez dans le passé, vous regardez ce qu'on appelle le cône de lumière, c'est-à-dire tous les rayons lumineux qui vous viennent de l'ensemble de l'univers tracent cette structure-là, conoïde, qui arrive à remonter très loin, dans l'espace et dans le temps, mais pas infiniment loin, parce que vous voyez qu'elle se recourbe comme ça, en oignon, et que finalement, vous ne voyez pas tout l'univers. Il y a des morceaux de l'univers qui sont complètement non visibles, en fait. Il y a un horizon. Alors, je ne vais pas en rentrer, par exemple, dans les théories modernes de ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, et actuellement, il y a des idées juste que peut-être le Big Bang n'est pas vraiment le début, qu'il y a quelque chose avant le Big Bang. On peut essayer de discuter ça. On ne sait rien de sûr là-dessus. Je voulais juste montrer ce qu'était un trou noir dans un diagramme d'espace-temps. Je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer. Juste pour dire que ça, c'est un diagramme d'espace-temps. Donc, je vous rappelle, ça veut dire que le temps est une dimension verticale, l'espace est une dimension horizontale. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que vous aviez une étoile en marron ici qui est au repos, comme ça, au départ. Donc, elle trace un cylindre, même taille, pendant un certain temps. Et puis, elle se met à s'effondrer, qui veut dire qu'elle se met dans l'espace-temps à devenir comme ça, dans l'espace avec des trucs de plus en plus petits pendant que le temps s'écoule. Alors, il naît une structure spéciale qu'on appelle surface du trou noir, qui est ici indiquée en rouge. Mais le point le plus important, ce n'est pas tellement cette notion de trou noir qui est que la lumière de l'étoile ici ne va plus pouvoir sortir et aller à l'infini. Ça, c'est un observateur lointain qui lui reste au repos loin. Le point le plus important, c'est qu'à l'intérieur du trou noir, il y a, bien que ça soit c'est une surface avec une aire finie, disons le rayon de Paris, 10 km de rayon, et donc vous avez cette surface de 100 km², et à l'intérieur de cette surface de 100 km², si vous tombez dans un trou noir, il y a un volume infini, en fait. Donc c'est déjà dur d'imaginer. Et puis surtout, le point important, c'est que ce volume infini, il n'existe que pour un temps très bref, de l'ordre d'une milliseconde, et après une milliseconde, ce volume infini cesse d'exister, c'est la fin de l'espace-temps, c'est la fin des temps. C'est-à-dire, ici, vous avez, localement dans l'espace-temps, l'inverse temporel du Big Bang, ce qu'on appelle un Big Crunch, une fin des temps anticipée. Ailleurs, ici, le temps continue pendant des milliards d'années, et à l'intérieur d'un trou noir, l'espace cesse d'exister après une milliseconde ou une minute, quelque chose comme ça. Bien, voilà quelques visions impressionnistiques, comme on dit en franglais, de la théorie d'Einstein. Alors, à la théorie d'Einstein, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous bien préciser que la théorie d'Einstein, ce n'est pas des fantaisies théoriques comme ça, parce que périodiquement dans les journaux on voit, on a prouvé qu'Einstein avait faux, qu'Einstein s'était trompé, la théorie d'Einstein remise en question. Non, tout ça c'est de la foutaise. La théorie d'Einstein est une des théories les mieux vérifiées de la physique. En général, les deux grandes théories du XXe siècle, la mécanique quantique dans sa version physique des particules, théorie quantique des champs, et la théorie d'Einstein sont des théories merveilleusement vérifiées, avec un très haut niveau de précision, et je donnerai un exemple de ça. Donc, ce sont des théories dont on est sûr qu'elles correspondent à au moins un domaine large de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles seront là pour des milliards et des milliards d'années, et on aura peut-être un jour des théories plus fines, mais en tout cas, dans le domaine où on les a vérifiées, elles sont « vraies », entre guillemets. Alors, aujourd'hui, la théorie d'Einstein est utilisée dans beaucoup de choses. J'ai déjà cité le système de positionnement global. En fait, toutes les théories des satellites autour de la Terre utilisent la théorie d'Einstein. Il existe une expérience qui a lieu en France, en particulier aux États-Unis, où on envoie un faisceau laser depuis la surface de la Terre qui est réémis sur un réflecteur qui a été posé à la surface de la Lune, à la fois par la fameuse mission Apollo, je veux dire, l'homme qui a marché sur la Lune, c'était important conceptuellement, mais scientifiquement, une des choses les plus importantes de cette mission Apollo, c'est d'avoir laissé des panneaux réflecteurs, comme ce qu'il y a à l'arrière des voitures ou des bicyclettes, des catadioptres, qui réfléchissent la lumière, et puis après, les Français en ont envoyé d'autres grâce à une mission russe, Lunarod, et donc il y a plusieurs panneaux réflecteurs, et donc on peut envoyer des faisceaux laser, comme ça, vous envoyez un faisceau laser, mais qui va jusqu'à la Lune, et qui revient, ça met une seconde pour aller, une seconde pour revenir, en gros, et vous pouvez calculer comme ça la distance Terre-Lune à 5 mm près, et comme ça, vous pouvez vérifier la théorie d'Einstein en détail et beaucoup de choses. Bien, aussi au niveau de la galaxie, au niveau de l'univers cosmologique, la théorie d'Einstein est vérifiée et utilisée comme outil essentiel. Je vais juste citer en passant une expérience très importante qui a été l'expérience fondatrice pour Einstein, celle sur laquelle Einstein a fondé toute sa théorie, qui est cette expérience qui est de façon fictive attribuée à Galilée. En fait, Galilée n'a jamais fait cette expérience. Des gens l'ont fait à l'époque de Galilée et on l'ont mal interprété. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est conceptuellement que si vous lâchez des objets de matériaux différents, ils vont tomber avec la même accélération. Notez bien que ce qui compte, ce n'est pas la masse. Tout le monde croit que c'est le problème, c'est que si vous envoyez 10 kg ou 1 kg, c'est étonnant que 10 kg tombe avec la même accélération qu'un kilo. Ce n'est pas du tout étonnant, parce que si vous avez 10 kg, vous le coupez en 10 morceaux d'un kilo, vous mettez un petit paquet de cadeaux autour, tous les poids d'un kilo vont tomber comme ça, et puis le petit paquet cadeau est léger autour, et donc ça veut dire que vous avez une masse de 10 kg qui tombe comme un kilo. Donc en fait, Galilée, ça avait déjà démontré comme ça que 10 kg tombe un kilo, mais ce qui est étonnant, c'est que la démonstration que je viens de donner marche pour dire que 10 kg de cuivre tombe comme un kilo de cuivre. Mais dire qu'un kilo de cuivre tombe comme un kilo de plomb ou un kilo d'uranium, ça, c'est absolument remarquable, en fait, même si ça paraît remarquable à personne. Pour un physicien, c'est remarquable. Alors, parce qu'il n'y a pas la notion de matière est différente, et il y a deux notions de masse que je n'ai pas le temps d'expliquer. Attends, dans l'histoire, cette expérience a été répétée maintes fois, et aujourd'hui, par exemple, ce que je viens de citer pour les tirs laser Lune, c'est-à-dire ce faisceau laser qu'on envoie de la Terre, qui se réfléchit sur la Lune et qui revient, permet de démontrer à 10-13 près, c'est-à-dire le 10 millième de milliardième, non ? Quelque chose comme ça, oui, de 10 millième de milliardième, que la Terre et la Lune tombent avec la même accélération vers le Soleil. Si elles avaient une petite différence d'accélération, il y aurait quelque chose qu'on aurait vu. Et ça, c'était une prédiction de la théorie d'Einstein, enfin, qui était incorporée dès le début. Alors, j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de preuves scientifiques de la théorie d'Einstein à plusieurs niveaux. Je vais parler ici de quelque chose de particulier, parce que je le connais bien, mais aussi parce qu'il est remarquable, ce sont les pulsars binaires qui sont un des tests les plus fins de la théorie d'Einstein. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile morte, qu'on appelle étoile à neutrons, qui condense une fois et demie la masse du Soleil dans le rayon de Paris, 10 km. Ce qui veut dire que vous avez des densités qui sont 10 puissance 15 fois la densité de l'eau, hein, le millions de milliards de fois la densité de l'eau, c'est très dense. Et c'est donc ces boules de matière qui tournent à très grande vitesse, qui ont des champs magnétiques intenses, et ces champs magnétiques intenses créent un faisceau d'ondes radio qui part dans l'espace comme un phare, comme un gyrophare, si vous voulez, sur des voitures de police. Et ces gyrophares de l'espace, vous pouvez les voir très loin, comme un phare, parce qu'à chaque tour de ce gyrophare, vous voyez un faisceau lumineux qui, comme ça, qui fait un flash à chaque tour. Et donc, vous pouvez, de très loin, voir ces pulsars dans la galaxie. Très loin, ça veut dire ici, à l'échelle de la galaxie, c'est-à-dire quelques 10 000 années-lumière, par exemple, quelques milliers d'années-lumière. Bien, alors, en 1974, Joe Taylor et son étudiant Russell Hulse ont découvert, pour la première fois, un pulsar binaire, ou pulsar double, c'est-à-dire un système binaire fait de deux pulsars, deux étoiles à neutrons, deux étoiles mortes qui tournent l'une autour de l'autre. Donc chacune tourne sur elle-même très rapidement. Par exemple, le pulsar tourne sur lui-même en 59 millisecondes. Et je vais vous lui montrer ces chiffres pour vous indiquer, voilà avec quelle précision est mesurée la période de rotation du pulsar sur lui-même. Mais non seulement ça, mais ces deux pulsars tournent l'un autour de l'autre sur une orbite, qui est en gros elliptique, et ils reviennent sur cette orbite après un tour, et ils reviennent après 8 heures. Mais cette période orbitale est connue, vous voyez, avec tous ces chiffres-là. Donc ça, c'est une des expériences de plus haute précision de la physique, bien que ce soit des données astrophysiques. J'ai même donné ici des données réelles, qui sont les temps d'arrivée sur Terre de ces flashs radio. Et l'essentiel de cette expérience, ça consiste donc à dire que le pulsar est comme une horloge très précise par son mouvement de rotation, et vous comparez cette horloge, elle est extrêmement précise, elle est aussi précise que les horloges atomiques sur Terre, et en fait, vous comparez l'horloge pulsar à une horloge atomique sur Terre. Et pour décrire cette comparaison, il faut que vous décriviez, en théorie d'Einstein, quel est le mouvement de ces deux objets très denses, très condensés, qui tournent l'un autour de l'autre, qui déforment l'espace-temps dans leur voisinage, et qui propagent l'interaction gravitationnelle à vitesse finie. Parce que je vous rappelle que l'idée essentielle d'Einstein, c'est que la gravitation est due à une déformation de l'espace-temps, et donc la déformation de l'espace-temps, elle ne se propage pas instantanément. Cet objet déforme l'espace-temps dans son voisinage, ça met un certain temps à se propager vers le compagnon, ça va à la vitesse de la lumière, mais ça met tout de même de l'ordre d'une seconde. Eh bien, ce petit temps de décalage, une seconde par rapport à 8 heures, a été mesuré même s'il crée un phénomène extrêmement petit dans ce système, et c'est ça que je veux indiquer ici. Voilà un des tests obtenus dans ce système, qui est la comparaison entre l'expérience et la théorie. Donc en haut ici, vous avez une quantité observée qui est donnée ici, qui est la décroissance de la période orbitale au cours du temps, c'est-à-dire à cause de ce phénomène de propagation de l'interaction gravitationnelle à vitesse finie, on trouve qu'il y a comme une espèce de force qui freine les deux objets sur leur orbite, qui les font tomber sur une orbite un peu plus basse, et quand ils sont sur une orbite un peu plus basse, la force gravitationnelle est plus forte entre les deux, et donc ils tournent plus vite. Donc ça veut dire que la période orbitale, malgré la force de frottement, va en diminuant, c'est-à-dire la fréquence orbitale va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite, donc la période pour faire un tour décroît. Mais elle décroît de combien ? Elle décroît, ça c'est la dérivée par rapport au temps de la période orbitale, ça vaut moins 2.422 × 10^-12. Ça veut dire que la période orbitale, elle décroît de 70 milliardièmes de seconde par orbite. C'est une quantité infinitésimale, mais qui a été mesurée avec très grande précision, au millième près de précision fractionnaire, et quand on fait le calcul théorique en théorie d'Einstein, alors il faut faire toute la théorie d'Einstein, et vous trouvez qu'une prédiction de la théorie d'Einstein, c'est que le mouvement doit être donné par ces équations. Quand vous résolvez ces équations, vous trouvez que la décroissance de la période orbitale doit être 2.4025. Donc il y a un accord entre les deux qui est meilleur que 99.9%, en fait. C'est 3 millièmes de précision. Donc ça, c'est un test de haute précision qui montre que des concepts fondamentaux et le fait que la gravitation se propage à vitesse finie en théorie d'Einstein sont vrais. Bien. Je voudrais juste citer en passant, puisque nous sommes ici à côté du Conservatoire national des arts et métiers, où se trouve, non, je crois, le pendule de Foucault, enfin une version du pendule de Foucault. Au XIXe siècle, enfin d'après Umberto Eco, il y a une salle où il est, je ne suis jamais allé voir, j'aurais peut-être le temps aujourd'hui. Foucault, scientifique français du XIXe siècle, a inventé deux concepts, le pendule de Foucault et le gyroscope, en fait, le gyroscope habituel que l'on a quand on est gamin. Et il avait inventé ça pour prouver la théorie de Newton de l'espace absolu. Justement, puisque l'idée, par exemple, d'un gyroscope, c'est que le gyroscope, quand vous le lancez avec une vitesse suffisante, son axe de rotation va rester fixe dans l'espace. Même si vous bougez autour de lui le cadre dans lequel il est par des cardans et des choses comme ça, c'est à ça que ça sert les gyroscopes dans la vie de tous les jours d'ailleurs, et donc le gyroscope montre le caractère absolu, rigide de l'espace. Et le pendule de Foucault montre la même chose puisqu'il y a un plan fixe dans lequel tourne le pendule, alors que la Terre tourne autour de ça. Donc Foucault avait inventé ça pour montrer que l'espace est rigide et absolu. Or, on sait aujourd'hui que l'espace n'est pas rigide, qu'en fait, il est mou. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la précision du pendule de Foucault n'était pas suffisante pour voir un tout petit effet prévu par Einstein, que l'espace est mou, c'est-à-dire entraîné par la rotation. Par exemple, une conséquence de l'espace mou, c'est que la Terre qui tourne, c'est de la masse qui tourne, et bien c'est comme une espèce de cuillère qui tourne dans la soupe, l'espace étant la soupe, autour d'elle, l'espace va être un peu entraîné, va se mettre aussi à tourner. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'espace tourne ? Ça veut dire que si vous mettez un gyroscope dans l'espace, vous allez le voir tourner. Localement, le gyroscope indique la direction propre de l'espace où il est. Et si au bout d'un moment, vous voyez que le gyroscope, après avoir fait un tour, par exemple, n'indique plus la même direction par rapport aux étoiles fixes, ça veut dire que l'espace a été entraîné. Cette expérience, on sait qu'elle doit donner le résultat prévu par Einstein parce que ça a été prouvé indirectement, y compris dans le pulsar binaire. Mais il y a actuellement une mission américaine en préparation, qui s'appelle Gravity Probe B, qui devrait le tester avec un très haut niveau de précision. Et je pense que conceptuellement, ça jouera un rôle important puisque c'est comme Foucault qui, bien après Newton, a pu faire voir au grand public le concept d'espace absolu de Newton. Et bien cette expérience fera voir au grand public le concept d'espace mou d'Einstein. Bien. Donc ça, c'est la situation pour Einstein aujourd'hui. Regardons le futur. D'abord, disons rapidement oui, qu'aujourd'hui, on n'a pas encore observé directement des ondes gravitationnelles arrivant sur Terre, mais ces expériences devraient le faire bientôt, et c'est important pour l'astrophysique. On n'a pas de preuve absolue que les trous noirs existent, vraiment. Le trou noir est un concept théorique, mais on espère le démontrer par l'observation des ondes gravitationnelles dans les années qui viennent. Il y a des grands problèmes cosmologiques encore ouverts, même si on ne pense pas qu'ils remettent en question forcément toute la physique. Le problème de la matière noire, le problème de l'énergie du vide. On s'est aperçu récemment que sans doute chaque centimètre cube du vide, en absence de matière, pèse 10^-29 g. Le problème de l'origine du Big Bang. Mais ici, je veux parler d'un problème conceptuel qui est celui du grand désaccord entre les deux grandes théories du XXe siècle. Donc, reprenons notre transparent de départ, qui disait qu'en 1900, on avait ces catégories séparées, espace, temps, force, matière. Alors, on a vu qu'il y a eu ces unifications qui ont donné, dans les mains d'Einstein, la notion d'espace-temps mou, qui est déjà une unification de tout ça. Pendant ce temps-là, l'autre grande révolution du XXe siècle, à part la relativité générale ici, 1915, c'est en 1925 la théorie quantique, qui introduit une nouvelle constante de la physique, H-bar, et qui se développe en liaison avec l'espace-temps plat, rigide de la théorie, de la première théorie d'Einstein, pour donner une unification très profonde et qui est difficile même pour les physiciens d'ailleurs à vraiment appréhender, mais un jour je suppose que les écoliers apprendront ça en première année, qui est la notion de champ quantique, dans lequel il n'y a plus de notion vraiment de particules ou d'interactions séparées. La matière est décrite à la fois comme une force, comme un champ, comme une particule. Donc il y a un objet mathématique qui a la structure mathématique d'un champ, quelque chose qui est continu et qui se déplace dans l'espace, mais qui en fait décrit à la fois un champ et une particule et ses interactions. Ça a été un premier niveau d'approfondissement de la théorie quantique. Et aujourd'hui, le point essentiel ici, c'est qu'il y a clash, il y a incompatibilité entre la théorie d'Einstein de l'espace-temps courbe, qui dit que l'espace-temps est un champ, cette déformation de l'espace-temps est un champ, et la théorie des champs quantiques. La théorie des champs quantiques sert à décrire toutes les interactions de la physique des particules, le champ électromagnétique, l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible, sont décrites par des champs quantiques. Donc il y a une théorie qui peut quantifier un champ. Et bien, quand vous appliquez cette théorie à la théorie du champ d'Einstein, vous trouvez que ça ne marche pas. Il est impossible d'appliquer la théorie du champ quantique à la théorie d'Einstein telle que. Et aujourd'hui, il semble qu'une idée qui est née dans les années 70, qui s'appelle théorie des cordes, est peut-être la clé d'une nouvelle unification qui va permettre vraiment d'intégrer ensemble, dans une synthèse, la théorie d'Einstein de l'espace-temps mou et la théorie des champs quantiques. Je vais juste indiquer très rapidement quelles sont les idées de base de cette théorie des cordes. Cette théorie des cordes dit d'abord force et matière, c'est toujours la même chose parce qu'on est dans une théorie quantique, mais que dans la théorie quantique habituelle, force et matière, finalement, quelque part derrière ça, il restait encore des interactions localisées, c'est-à-dire quelque chose comme une particule. Il y avait quelque chose qui était localisé en un point dans l'espace et qui se déplaçait dans le temps, même si en mécanique quantique, ce n'est pas vraiment comme ça. Il y avait quelque chose de localisé en un point. Eh bien, la théorie des cordes dit qu'il ne faut pas localiser les choses sur des points, il faut les localiser sur des cordes, c'est-à-dire vous remplacez un point par, comme un petit élastique, quelque chose qui a une dimension d'espace et qui se recourbe sur lui-même, ou qui peut avoir d'ailleurs des extrémités, mais qui est comme une élastique qui a une tension interne et qui donc vibre tout le temps. Si vous avez un élastique qui est dans l'espace et qu'il n'y a pas de frottement, il va être un mouvement de vibration, il va bouger tout le temps. Eh bien, la théorie quantique d'une corde, comme ça, vous partez d'une corde, vous mêlez la théorie quantique avec la théorie des cordes, et au miracle, vous trouvez que cette théorie des cordes, où vous n'avez jamais entendu parler d'Einstein ni rien, vous partez de l'espace-temps plat, vous ne connaissez pas Einstein, vous parlez la mécanique quantique et les cordes, eh bien, vous trouvez que la théorie d'Einstein sort comme un lapin d'un chapeau, comme une prédiction de la théorie des cordes, mais qui est modifié, parce que vous ne trouvez pas seulement la théorie d'Einstein, vous trouvez une théorie d'Einstein complétée par d'autres choses, donc ça suggère qu'il y aura peut-être un certain niveau des modifications de la théorie d'Einstein. Vous trouvez aussi d'autres choses, que la dimension de l'espace-temps ne doit pas être 4, c'est-à-dire 3 dimensions d'espace, une dimension de temps, mais 10. Donc ce sont des prédictions qui n'ont pas l'air compatibles avec la réalité, mais il y a des façons de s'en sortir. Je vais essayer de donner une idée au niveau conceptuel que la théorie des cordes, en fait, elle est une généralisation conceptuelle de la théorie d'Einstein, et que ça, je trouve que c'est un mouvement de la physique qui est important. Avant Einstein, c'est-à-dire au XIXe siècle, il y avait beaucoup de catégories qui étaient... il y avait des absolus, il y avait des choses qui étaient données a priori et qui n'étaient pas influencées par le contenu matériel de l'univers. Par exemple, il y avait l'espace qui préexistait à la matière, le temps qui préexistait à la matière, et puis vous aviez toutes les constantes qui décrivent l'interaction de la matière. Par exemple, il y a une constante, la charge de l'électron qui décrit l'interaction électrique entre deux électrons, ou la constante de Newton qui décrit la force de l'intensité gravitationnelle. Ça, c'était des nombres donnés a priori, God-given, comme on dit en anglais, qui viennent du divin, Et ça, c'est l'absolu. Et puis, vous aviez la matière en évolution, décrite par de la matière et de la force, qui était le contenu à l'intérieur de ce contenant, bien fixe une fois pour toutes. Einstein a transformé l'espace-temps ici et l'a fait passer dans la case de droite, c'est-à-dire dans la catégorie des choses qui évoluent, des objets dynamiques. Mais la théorie d'Einstein a laissé toutes les constantes d'interaction de la physique comme des nombres donnés a priori. Pourquoi serait-il donné a priori? Pourquoi, par exemple, la constante de structure fine, qui est le carré de la charge de l'électron, vaut 1 divisé par 137.036, etc. D'où vient ce nombre? Eh bien, la théorie des cordes dit qu'en fait, il n'y a rien d'absolu, que tout est dynamique, que non seulement le cadre espace-temps est quelque chose de dynamique, qui doit sortir d'une dynamique qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui, qui est cette dynamique cosmologique qui doit donner naissance à tout l'univers et sa structure à partir de rien ou à partir de quelque chose, on ne sait pas, et que tout ce qui est, toute la matière en fait, est dynamique, y compris l'intensité des interactions. Et justement, un des champs, il y a un champ de la théorie des cordes qui joue un rôle important, qui mesure l'intensité de toutes les interactions entre les particules. Par exemple, ce nombre 1 sur 137, que je citais, qui est le carré de la charge électrique de l'électron, ne doit pas être un nombre donné une fois pour toutes, mais c'est la valeur d'un champ, d'un objet dynamique, qui doit être fixé par un certain mécanisme que l'on ne comprend pas. Mais le fait que tout ça soit des champs, en fait, ça suggère tout de suite qu'il va y avoir des modifications de la théorie d'Einstein. Et en particulier, j'ai dit qu'une des tests les plus précis de la théorie d'Einstein à l'heure actuelle, c'est le test que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel. Cette expérience qui remonte à Galilée, etc. Et aujourd'hui, la théorie des cordes suggère que peut-être il y a une violation de ça, à un niveau infinitésimal, en dessous de 10-12 ou 10-13, puisqu'il est testé à ce niveau-là, mais il est possible que, si on fait une expérience de haute précision, par exemple en satellite autour de la Terre, on puisse trouver une violation de cette universalité de la chute libre. Bien. Alors, j'arrive aux conclusions. Les conclusions, c'est que le XXe siècle a donc profondément renouvelé les catégories de base de la représentation du réel, que en particulier la grande révolution einsteinienne qui nous a donné cet espace-temps mou et dynamique, ce champ gravitationnel qui s'identifie à la chronogéométrie de l'espace-temps, a été vérifié en profondeur, qualitativement et quantitativement, même si on veut d'autres tests encore plus profonds, mais on sait que c'est vrai dans un grand domaine d'application. En revanche, il est vrai que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire le contenu conceptuel de la théorie d'Einstein, par exemple l'absence de flux temporel, n'a certainement pas pénétré la conscience commune. Peut-être qu'au XXIe siècle, on l'apprendra à l'école plus tôt. Peut-être que c'est impossible, en fait, et qu'il faut apprendre historiquement la façon dont l'humanité a appris les concepts et après les a modifiés. Je ne sais pas, c'est bien possible, mais en tout cas, il faut accélérer aussi l'enseignement pour arriver à avoir une vision tout de même des grands changements conceptuels de la physique du XXe siècle. Mais le XXe siècle, ce n'est pas que la théorie d'Einstein, même si la théorie d'Einstein reste un grand bloc qui est la description essentielle du monde macrocosmique, la théorie quantique a apporté un bouleversement encore plus profond en fait, de la représentation du réel, que je n'ai pas essayé de décrire ici. Je veux dire, la représentation du réel en théorie quantique est si bizarre par rapport au concept de la réalité d'aujourd'hui que même les théoriciens travaillant dessus ont du mal à vraiment penser ce qui se passe. Mais en tout cas, au niveau technique, on est sûr que ces deux blocs, la théorie d'Einstein et la théorie quantique, sont incompatibles dans le cadre qui est techniquement bien connu aujourd'hui. Et j'ai dit qu'il y a actuellement un espoir d'une nouvelle théorie des cordes. On ne sait pas si la théorie des cordes va vraiment réussir ça. C'est une théorie qui est encore en construction. Mais en tout cas, elle promet d'être une théorie très riche qui va révolutionner sans doute à la fois la physique des particules, parce qu'elle prédit en principe des modifications de toute la physique, du côté de la physique des particules et aussi du côté de la théorie d'Einstein. Mais peut-être encore plus important, au niveau conceptuel, elle va nous obliger à repenser de nouveau ce que peut être qu'un espace-temps mou dynamique qui devient quantique, c'est-à-dire où ce qui était le contenant de la matière a été par Einstein déformé par son contenu, mais maintenant il est non seulement déformé, mais il est flou, puisque en théorie quantique, vous ne pouvez pas décrire le contenant comme existant vraiment quelque part. Donc vous avez l'espace qui contient les choses qui devient lui-même flou, ça devient difficile de penser la nature de la réalité, mais c'est ce qu'il va falloir faire dans le siècle qui commence. Merci.
Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour la théorie de la relativité générale puisse être enseignée à l'école à la place de la géométrie d'Euclide?
Non, pas vraiment, mais ce que je peux dire, c'est qu'au lieu d'apprendre comme un fait absolu que la somme des angles vaut 180 degrés, on pourrait déjà indiquer qu'en fait, on va supposer que c'est ça et que quand on le postule, on peut en déduire des tas de théorèmes, mais que c'est un fait expérimental qui doit être vérifié, qui n'est pas forcément vrai, et on pourrait dire en fait qu'il est déjà faux, même si ça troublerait peut-être l'élève de base.
Monsieur, allez-y.
Est-ce qu'on peut dire que tout cela... aboutit à la réflexion que tout agit sur tout. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, le champ, la particule, etc., tout agit sur tout, et ce qui explique qu'on a créé ces théories. Ceci dit, il ne faut pas peut-être jeter aux orties le vieil espace d'Euclide, puisque, curieusement, ça marche, sauf pour dans les dimensions très, très grandes, dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Et d'autre part, deuxième question, que devient l'entropie moyenne au cours de l'évolution de cet univers?
Oui, alors c'est vrai que la physique dit que tout agit sur tout, que tout est objet dynamique, c'est une des grandes leçons du XXe siècle, il n'y a plus de structure absolue. L'entropie est un phénomène thermodynamique, qui existe quand vous avez de la matière dans un état qui devient désordonné, et c'est quelque chose qui est une structure qui se rajoute plus tard lors de l'expansion de l'univers, par exemple. À un certain moment, sans doute, l'entropie de l'univers est nulle, c'est une expansion dans le vide, et puis par des phénomènes de création de particules qui mêlent justement l'univers en expansion et la mécanique quantique, toute cette énergie d'expansion de l'univers peut se convertir en chaleur. Et quand vous créez 10 puissance 80 particules de lumière photons, ils se thermalisent très rapidement et vous avez un état anthropique très élevé. Non. La gravitation joue un rôle organisateur dans l'univers, mais il n'existe pas de théorie qui attribue de façon meaningful, de façon sensée, une négentropie à la gravitation, même si elle joue un rôle organisateur. Par exemple, il y a aussi une théorie récente sur les trous noirs qui montrent qu'ils sont des objets purement gravitationnels et qui ont une entropie qui est d'origine mi-physique, mi-gravitationnelle.
Monsieur.
Le 28 janvier 1994, à 13h10, à 11 000 mètres au-dessus de la région parisienne, un équipage d'Air France a aperçu un objet gigantesque pendant 54 secondes. Cet objet s'est dématérialisé sous ses yeux. Simultanément, une station radar au sol observait exactement le même phénomène. Est-ce que cette observation a un sens en termes de matière et d'énergie?
C'est fictif ce que vous dites ou c'est censé être vrai? Il y a un service de la gendarmerie qui utilise...
Ce n'est absolument pas fictif, c'est avéré. C'est avéré et vous pouvez vous renseigner au CNES. Je vous ai donné des renseignements tout à fait précis.
Je suis a priori tout à fait... ouvert à la possibilité qu'il y ait des choses que l'on ne connaisse pas, et en particulier qu'il y ait d'autres civilisations, même s'il y a un argument qui date d'Enrico Fermi, qui est qu'il est peu probable qu'il y ait d'autres civilisations, d'abord parce qu'ils seraient déjà là et on les verrait beaucoup plus, et surtout parce que, après tout, notre civilisation a atteint un niveau technologique depuis assez élevé pour se poser ces questions-là depuis 50 ans, Et il a fallu 4 milliards et demi d'années à la Terre pour développer une civilisation. Et depuis 50 ans, on peut aussi se détruire en quelques secondes. Donc il est probable que la durée de vie d'une civilisation à l'échelle cosmique est très brève, en fait. Et donc il est très peu probable que dans l'espace-temps, même s'il y a des civilisations partout, comme Giordano Bruno l'imaginait, elles aient une coïncidence dans le temps, c'est-à-dire qu'elles puissent communiquer au même moment dans le temps.
Monsieur.
La formule de Pythagore améliorée, dirais-je, me suggère l'idée suivante. Pour moi, le temps serait par rapport à une dimension spéciale, à une dimension spatiale, pardon, à un facteur près, ce qui est un nombre imaginaire pur par rapport à un nombre réel. Ce qui expliquerait le signe moins, n'est-ce pas, le moins c'est 2. Cela étant, les dimensions spatiales possèdent des propriétés de réversibilité que je ne vois pas bien en ce qui concerne le temps. Mis à part le fait, excusez-moi, Ma famille est ainsi, peut-être parce qu'il y a eu de l'endogamie. Nous faisons des rêves prémonitoires. Bon, ça va faire sourire. Non, pas trop, tant mieux. Parce qu'après tout, moi aussi, j'ai passé un peu les mêmes concours que notre grand conférencier. Et nous rêvons des situations que nous allons vivre plus tard.
Alors, bon, il est vrai, prenons de façon très positive, ce temps, ce signe moins devant le temps n'est pas compris aujourd'hui. À un niveau très profond, au niveau d'Einstein, c'est un postulat, c'est le même postulat que dire la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés chez Euclide. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire a priori, qui n'est pas logiquement nécessaire, même si la physique serait évidemment complètement différente si ce signe-là n'était pas là. Mais on pourrait se poser la question, si on a un espace-temps à 10 dimensions, pourquoi il n'y a pas deux signes moins? Pourquoi il n'y a pas deux temps, par exemple? Ce genre de question, on est en train de l'aborder aujourd'hui. Je veux dire, la théorie des cordes commence à le poser. Par exemple, un de mes amis, un des plus grands physiciens du vivant et du XXe siècle, Sacha Polyakov, pense que ce signe moins est lié à quelque chose en théorie des cordes, un champ dynamique, que ce signe moins sort dynamiquement aussi de la théorie des cordes. Donc, il est bien d'avoir en physique des questions qui restent irritantes comme ça. À tout moment en physique, il y a un cadre qui explique tout ce qu'on veut expliquer, mais il reste des questions brûlantes et les questions restent ouvertes.
S'il vous plaît, monsieur. Pensez-vous que les idées d'Einstein puissent, à plus ou moins longue échéance, modifier l'actuelle définition du mètre qui est basée sur la vitesse de la lumière?
Bon, la théorie d'Einstein a déjà modifié ça, puisque c'est Einstein qui a introduit l'idée de constance de la vitesse de la lumière. Donc le fait que le mètre soit aujourd'hui défini à partir de la seconde incorpore déjà la théorie d'Einstein. Il y a eu pas mal de discussions à l'heure actuelle pour savoir, à l'intérieur du cadre de la théorie de la relativité générale, est-ce qu'il faut faire attention à la définition de la seconde, etc., et du mètre? Et effectivement, il faut faire très attention. Il faut bien surveiller ce qu'on dit, puisque la seconde n'est pas la même partout. À la fois, Einstein dit que la seconde est la même partout, et en même temps, si vous avez deux horloges de même construction, une qui est à la surface de la Terre ici, et l'autre qui est à des milliers de kilomètres au-dessus de vos têtes, eh bien, si vous comparez les temps de lecture, si vous regardez les aiguilles qui bougent sur l'une et sur l'autre, vous les comparez sur un écran vidéo, elles ne bougent pas à la même vitesse. Donc, il faut savoir, quand on dit la seconde, qu'est-ce qu'on veut dire. Mais ça, c'est compris. Donc, on sait le faire.
Monsieur.
S'il vous plaît, deux questions sur deux hypothèses que vous avez présentées. Première question sur le trou noir. Vous le décrivez comme ayant à l'intérieur un espace infini, puis une disparition locale de l'espace-temps. Peut-on dire que des calculs pourraient montrer que localement, la flèche du temps ou de l'espace-temps change de sens?
Non.
Deuxième... Non. Non. Ne change pas de sens.
Non.
Bien.
Non. Deuxième question. L'espace-temps reste orientable, c'est-à-dire il y a toujours le cône de lumière à tout moment détermine qu'est-ce qui est dans le temps et qu'est-ce qui est dans l'espace. Et à l'intérieur d'un trou noir, il n'y a pas, dans les trous noirs que l'on connaît, c'est vrai qu'il y a en fait des trous noirs plus compliqués, avant que vous passiez à la deuxième question, où la flèche du temps peut bouger de façon bizarre, c'est-à-dire vous pouvez avoir des lignes d'espace-temps qui reviennent dans leur passé, autrement dit des gens qui peuvent continuer à vivre et qui un jour se retrouvent plus jeunes que quand ils sont partis. Mais ça, c'est dans des genres de trous noirs qu'on pense qu'ils sont exclus. Et dans le trou noir que j'ai présenté, et d'après les idées récentes, en fait, ça ne se passe pas comme ça.
Merci pour la première réponse. Deuxième, sur l'hypothèse de la théorie des cordes. Une corde, apparemment, ce n'est pas un point, sinon on l'appellerait un point. Donc, ou bien est-ce un objet virtuel, ou bien doit-elle être considérée comme une suite de points?
Non, une corde n'est pas un point et elle n'est pas une suite de points. En fait, une corde habituelle, effectivement, si vous avez une corde comme ça, c'est fait d'une suite de points matériels qui sont liés les uns aux autres, alors que les cordes dont on parle, c'est un objet relativiste et quantique qui n'est pas fait de points fixes reliés les uns aux autres avec des formes élastiques. Donc c'est une théorie spéciale de corde. Ça ressemble à une corde et c'est élastique, c'est pour ça qu'on dit que c'est une corde, mais ça n'est pas fait de points. Le point important, si je puis dire, c'est que, en revanche, une corde, comme toute corde, comme une corde à piano, comme autre chose, c'est quelque chose qui vibre dans un nombre infini de modes de vibration, Une corde à piano peut vibrer dans le mode, étant donné sa longueur, dans le mode fondamental et puis dans le premier harmonique, le deuxième harmonique. Donc ça veut dire un objet qui vibre, comme ça, une corde peut vibrer dans un nombre infini de modes de vibration. Mais maintenant, en théorie quantique, la vibration d'un objet décrit un état quantique qui est finalement associé à une particule, et elle-même, une particule, est associée à un champ. Et donc vous voyez qu'une corde, comme ça, contient un nombre infini de particules au sens quantique, et donc un nombre infini de champs. Et par exemple, cette corde quantique, elle peut vibrer dans un état infinitésimal où vous ne verrez rien tellement elle est petite. Cet état, ce qu'on appelle l'état de vibration de repos, le fondamental, contient le graviton, contient la théorie d'Einstein. L'interaction gravitationnelle est due à l'échange de toutes petites cordes, mais quand ces cordes sont excitées dans un état de vibration plus élevé, ça devient des particules très massives.
Si je peux revenir au début, au tout début de...
Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Hein?
Pardon?
Parlez dedans le micro.
Dans le micro. Oui. Bon, merci. Si je peux, je voudrais revenir au tout début du travail d'Einstein. Et une des hypothèses de base de l'article de 1905, c'est la constance de la vitesse de la lumière, quelle que soit la vitesse de l'émetteur. Ça, c'était en 1905, dans la théorie de... Dans les théories ondulatoires de cette époque-là, c'était normal, avec la conception de l'éther. Einstein détruit, n'a plus besoin de l'éther, nous dit-il, mais il garde cette hypothèse de la constance de la lumière, quelle que soit la vitesse de l'émetteur. Alors, premièrement, d'abord, c'était assez étonnant quand on lit ça dans l'article de 1905. Deuxièmement, est-ce que, par exemple, avec les étoiles doubles, on a pu vérifier cette constance de la vitesse de la lumière indépendamment de la vitesse de l'émetteur. Deuxième question, quand on continue à lire des livres d'Einstein lui-même, de vulgarisation, on s'aperçoit qu'en 1919, je crois, on a vérifié que la déviation de la lumière par le soleil était bien celle prévue par Einstein. Seulement, Einstein a d'abord trouvé une valeur qu'on peut calculer par les théories de Newton, et puis il a trouvé exactement le double 5 ans plus tard, je crois, et c'est cette valeur qui a été vérifiée en 1919. Alors c'est cette deuxième question, c'est celle-ci, c'est curieux, est-ce qu'on pourrait expliquer à des profanes comme certains d'entre nous pourquoi c'est exactement le double? Avec la théorie de la relativité générale, on trouve exactement le double de la théorie de Newton, c'est ce double exact qui est un peu troublant.
Je comprends. Alors, pour votre premier point, cette fois je prends des notes, sinon on se perd. Pour votre premier point, vous avez entièrement raison. En fait, à l'époque d'Einstein, je ne sais plus si c'était avant l'article d'Einstein ou peu après, De Sitter a remarqué qu'en étudiant les étoiles doubles, très lointaines, si la vitesse de la lumière dépendait de la vitesse de l'observateur, on ne pourrait pas vérifier les lois de Newton pour des étoiles très lointaines, parce qu'il y en a un qui projetterait la lumière plus rapidement, et donc on ne le verrait pas au même moment. Donc déjà, à l'époque d'Einstein, on savait que la vitesse de la lumière était vérifiée par ces phénomènes d'étoiles doubles avec haute précision. Une version moderne de ça, dont j'ai entendu parler très récemment, vérifie l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport à la source à 10-20 près. C'est un des tests les meilleurs de la physique. Bien. Concernant ce facteur 2, effectivement, vous avez raison. Quand en physique, quelque chose vaut pile 2, il faut comprendre. Alors, il se trouve qu'en fait, à l'époque d'Einstein, s'il avait considéré une autre théorie de la gravitation purement scalaire qu'il a rejetée pour des fausses raisons, d'ailleurs, il n'aurait pas trouvé 2, il aurait trouvé 0. Et dans les trois cas, ce qui se passe, c'est que l'effet, quand vous faites la théorie mathématique, l'effet est une somme de deux effets. Un qui est dû vraiment, disons, bon, il y a une géométrie de l'espace-temps qui veut dire qu'il y a une géométrie du temps et une géométrie de l'espace. Quelque part, dans la théorie, il y a à la fois la géométrie de l'espace et la géométrie du temps. Et donc, il y a une contribution qui vient de la géométrie du temps, et c'est le facteur de Newton qui contribue un 1, et puis vous avez une contribution qui vient de la géométrie de l'espace. Et pour des raisons profondes et simples, cette contribution qui vient de l'espace, elle vaut plus 1 dans la théorie d'Einstein et moins 1 dans une théorie dite de Nordström. Et c'est pour ça que dans la théorie de Nordström, on obtient 0, dans la théorie d'Einstein, on obtient 2. Et quand Einstein a fait son premier calcul, il n'avait pas encore la courbure de l'espace, et donc il a obtenu 1. Donc il y a des raisons simples et profondes pour ce facteur 2. Ah non, il est vérifié aujourd'hui que c'est 2 à 10-4 près. Les tests, un des tests les plus précis de la théorie d'Einstein, en fait le plus précis, c'est que la déflexion de la lumière est donnée par la formule d'Einstein moderne, la plus récente, la théorie de la relativité générale, au 10 000e près, ce qui est une des plus hautes précisions en physique.
On va prendre encore trois questions, monsieur, et puis une autre là-haut.
Oui, bonjour. Vous avez fait un petit schéma pour expliquer que dans la théorie de l'expansion, on a des objets qui sont les uns à côté des autres, à une certaine distance, ils ne bougent pas, mais on constate qu'au bout d'un certain temps, après, ils sont plus loin. Si on prend des modèles, je dirais, avec des constantes fixées, par exemple le modèle Einstein de Sitter, qui a été un des plus utilisés, ce modèle permet de calculer, on trouve le calcul dans pas mal de bouquins, qu'à des objets qui ont un décalage spectroscopique donné, un certain Z, on peut calculer quand la lumière est partie, on peut calculer à quelle distance était cet objet au moment du départ de la lumière, et on peut calculer, y compris, la valeur H à l'époque, et donc à quelle vitesse croissait cet espace. Et on trouve que cet espace croissait à une vitesse plus grande que la lumière. Est-ce que ceci est gênant par rapport à la relativité générale? Est-ce qu'il y a un défaut dans ce calcul? Est-ce que vous voulez m'expliquer?
Oui, H n'est pas une vitesse. Tout ce que non. Vous avez dit est vrai, sauf le petit bout de phrase disant qu'on voit des vitesses plus grandes. Vous avez parlé de H plus grande que la lumière. Ce à quoi vous faites allusion, bon, c'est... Ah non, on n'est plus censé utiliser ça. D'ailleurs, je vais éteindre, d'ailleurs.
Ça ne marche plus. Ah non, il s'est débranché.
Donc, si ça complique, je réponds en mots. Bien. Donc, une observation d'une galaxie lointaine et la mesure de l'expansion des galaxies lointaines, ça veut dire faire une mesure ici, à partir d'un rayon lumineux qui est venu de très loin, et en observant, si on compare des raies lumineuses émises par cet objet à cet objet-là, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure le rapport entre la longueur d'onde à l'émission et la longueur d'onde à la réception. Et effectivement, si vous utilisez une formule du 19e siècle, du premier ordre, la formule de Doppler, que le rapport des vitesses est lié à la vitesse, vous allez avoir des vitesses plus grandes que la lumière, mais ce n'est pas ça. En théorie d'Einstein, le rapport des longueurs d'onde est simplement égal au rapport de la taille de l'univers entre ça et ça. Et donc vous trouvez que, par exemple, quand la longueur d'onde a augmenté d'un facteur 2, ça veut dire qu'elle a été émise à un moment où le facteur d'échelle de l'univers était deux fois plus petit. Mais vous ne mesurez jamais des choses plus vite que la lumière. Jamais. Point. C'est tout. Voilà pourquoi votre fille est muette. Je peux vous expliquer en détail. Il n'y a pas de problème. Je veux dire. Il y a un problème actuellement. Il n'y a pas. C'est pas un problème. Je veux dire. On a trouvé récemment que l'univers est peut-être actuellement en accélération et non pas en décélération. Par exemple, pendant longtemps, on pensait que l'univers de Sitter était Einstein de Sitter était une bonne représentation de la réalité. D'ailleurs, ça l'est dans toute cette partie-là. Et il semble que très récemment, ici dans l'espace-temps, on est passé à un nouveau description de l'univers, qui est l'univers cette fois de De Sitter de 1917, c'est-à-dire avec une accélération exponentielle. Ce qui veut dire que, au fait, si des gens s'inquiètent de savoir si on va finir, tout l'univers va finir dans un Big Crunch dans 10 milliards d'années ou pas, en fait, les théories actuelles disent que pas du tout, on entre dans une période d'expansion exponentielle, ce qui veut dire que l'univers n'a pas de fin temporelle dans le futur, mais qu'on finira infiniment éloigné de toute autre galaxie dans un univers infiniment froid. Et d'ailleurs aussi, d'après les théories cosmologiques, la matière est instable, donc dans 10 puissance 32 années, toute la matière disparaîtra et se transformera en lumière.
Monsieur, avant-dernière question. Non, vous êtes rassuré. Avant-dernière question, et puis dernière. Voilà, allez-y.
En fait, ma question était un peu connexe, puisque je voulais également effectivement savoir si la constante... Pardon, ici.
Ah oui.
Si. Je voulais savoir si la constante cosmologique, qui était un truc, si j'ai bien suivi, inventé par Einstein à l'époque pour expliquer que l'univers ne s'effondrait pas, qui à un moment était dénigré et qui à présent réapparaît, j'allais dire, dans la presse. Est-ce que ça réapparaît parce que c'est quelque chose qui est apporté par la théorie des cordes et effectivement qui justifie que cette constante cosmologique a vraiment quelque part une naissance et qu'effectivement on est complètement rassuré, on ne va pas s'effondrer dans 15 milliards d'années quoi.
Bon, l'histoire d'être rassuré ou pas, de toute façon, tel n'est pas le problème. Ça rappelle l'histoire de cette vieille dame qui arrive à la fin de la conférence pour demander au conférencier s'il a dit que l'univers allait disparaître dans un million d'années ou un milliard d'années. Il lui dit non, non, c'était un milliard d'années. Il dit, ah bon, ben, j'étais inquiète. Donc, le problème n'est pas là. En revanche, plus profondément, le problème de la constante cosmologique est un des plus grands problèmes de la physique aujourd'hui, qui devait être marqué dans la liste des problèmes. C'est un sous-problème de l'unification entre mécanique quantique et théorie d'Einstein, puisque bon, Einstein a introduit cette constante comme ça, c'est vrai, pour les besoins de la cause, de façon ad hoc. Mais après, on s'est aperçu, lors du développement de la théorie quantique des champs, que le vide est l'endroit le plus actif dont vous pouvez rêver. C'est-à-dire, à tout moment, en théorie quantique, dans le vide, dans un centimètre cube de vide et pendant le temps correspondant d'espace-temps, il se passe un nombre infini d'événements. Vous avez sans arrêt des particules virtuelles qui naissent en paire et qui disparaissent à très grande vitesse et qui disparaissent avant qu'on ait le temps de les observer, sauf qu'il y a des expériences qui démontrent qu'effectivement, le vide est un endroit qui fluctue sans arrêt. Vous avez des champs qui fluctuent, vous avez des particules qui naissent et qui disparaissent. Donc, on dirait en termes intuitifs qu'il doit y avoir beaucoup d'énergie associée à ce mouvement infini qui est là-dedans. Et effectivement, quand vous calculez l'énergie du vide en disant « Ah ben, il y a toutes ces particules virtuelles qui apparaissent, qui disparaissent, que ça », elles ont une certaine énergie, qu'on appelle l'énergie de zero point, énergie de repos du vide, un demi de h bar oméga par mode de vibration de champ quantique. Vous faites la somme de tout ça, vous trouvez l'infini d'abord. Donc, c'est pas bon, mais vous dites « Ah oui, mais la théorie d'Einstein doit dire qu'il y a un cut-off, il y a une coupure que je dois introduire. » Donc vous refaites le calcul et vous trouvez que l'énergie du vide, cette fois, est finie, mais elle vaut 120 ordres de grandeur plus que ce qui est observé dans la nature. C'est-à-dire quelque chose d'absolument énorme. Même quand vous tenez compte des meilleures théories pour annuler la constante cosmologie aujourd'hui, vous trouvez toujours 60 ordres de grandeur trop grand. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi l'énergie du vide est aussi petite qu'elle est. D'après des mesures astrophysiques qui n'ont rien à voir avec ça, l'énergie du vide serait de l'ordre de 10^-29 grammes par centimètre cube. Ça, c'est des mesures sur des supernovas lointaines, qui ne sont pas sûres d'ailleurs, mais qui, mêlées avec d'autres choses, indiquent que probablement ça a des chances de rester, cette histoire-là. Théoriquement, tous les calculs disent... on espérait pendant longtemps que la théorie des cordes allait prédire que ça, l'énergie du vide allait être exactement zéro. Mais aujourd'hui, on a un problème parce que justement, on pouvait espérer trouver, comme l'histoire du facteur 2, s'il y a quelque chose qui vaut exactement zéro, un jour, on peut essayer de trouver une raison pour laquelle 1 moins 1, ça donne zéro. Mais trouver quelque chose qui vaut 10 moins 120 fois un ordre de grandeur naturel, c'est un des grands problèmes aujourd'hui. Mais c'est important, ça montre que la physique est en progrès et ça montre qu'on n'a pas tout compris. Et il est important d'avoir des choses... Particules virtuelles, oui, ça veut dire que c'est des particules qui ont une existence très brève dans le temps, mais qui existent vraiment, mais qui disparaissent aussitôt.
Monsieur, dernière question.
Voilà. Oui, deux questions historiques. Comment Einstein, apparemment on était bien heureux dans le modèle newtonien, comment Einstein s'est-il introduit pour remettre en cause ce modèle newtonien? Qu'est-ce qui l'a incité à se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche? Donc, quel est son point de départ de sa réflexion? Et deuxièmement, expérimentalement, à l'époque, comment est-il arrivé à donner la vitesse de la lumière? À l'époque, c'était encore moins facile qu'aujourd'hui. Mesurer un objet à distance, c'est pas facile. Hein. Aujourd'hui, on nous dit que le Soleil est à 150 millions de kilomètres, quid, par exemple.
Oui, enfin, Einstein savait déjà que le Soleil était à 150 millions de kilomètres. Le point de départ d'Einstein était conceptuel. C'est à peu près ce que j'ai expliqué. Il y avait des paradoxes de la physique, à la fois au point de vue théorique de la physique de la fin du 19e, à la fois au point de vue théorique et au point de vue expérimental, comme l'expérience de Michelson-Morley, mais qui n'a pas joué un rôle essentiel dans la pensée d'Einstein, d'ailleurs, mais il devait le savoir un peu. Donc, la théorie de la relativité restreinte, beaucoup de gens essayaient de la comprendre. Chercher une nouvelle structure qui réconcilie l'invariance des équations de Maxwell, la théorie de la lumière avec la théorie de l'espace et des groupes de transformation, c'était un problème urgent de l'époque. Mais après ça, Einstein a été un des seuls à travailler sur la théorie de la gravitation relativiste, parce que la gravitation n'était pas un problème important, pas un problème de physique de pointe de l'époque. Et en fait, même les gens qui l'ont fait venir à Berlin s'inquiétaient un peu qu'Einstein passe tant d'années à travailler sur la gravitation qui n'avait aucun intérêt à l'époque, puisque la mécanique quantique commençait à naître et était le problème urgent. Mais le point qu'Einstein voulait comprendre, c'est cette universalité de la chute libre, le fait que tous les corps tombent avec la même accélération. Revenons au facteur 2 tout à l'heure, quand il y a quelque chose d'aussi simple que ça, s'il y avait un corps qui tombait 10% plus vite, l'autre 20% moins vite, etc., il n'y aurait rien de simple. Mais si tous tombent exactement rigoureusement avec la même accélération, il s'est dit il y a comme une symétrie profonde de la physique qui mêle gravitation et espace-temps, et il faut que je le comprenne. Et c'est donc cette incitation intellectuelle à le comprendre qui lui a fait découvrir cette théorie, qui à l'époque ne pouvait pas être vérifiée pratiquement, et qui s'est révélée être essentielle pour décrire l'univers bien après Einstein, puisque à l'époque d'Einstein, effectivement, l'univers, le cosmos était tout petit, on voyait à peine la galaxie, on ne connaissait pas l'existence des galaxies extérieures, on ne voyait pas l'expansion de l'univers, on ne connaissait pas les étoiles à neutrons. Aucun des objets qui aujourd'hui permettent de confirmer la théorie d'Einstein et qui sont utilisés pour la description n'existait pas quand Einstein a fait ça. Donc Einstein a vraiment anticipé de 50 ans toute la technologie de son époque.
Merci.